Chapitre 24. Qualification pour un service chrétien efficient. Efficience. La nonchalance et l'inefficacité ne sont pas incluses dans la piété. Quand nous comprenons que nous travaillons pour Dieu, nous avons plus que jamais la notion de la sainteté du service spirituel, ce qui nous permet d'accomplir chacun de nos devoirs d'une manière plus vivante, plus vigilante et plus persévérante. Notre époque réclame plus d'efficience et une plus grande consécration. Je suis si pénétré de cette pensée que je crie à Dieu, suscite et envoie des messagers qui aient conscience de leur responsabilité, des messagers en qui l'idolâtrie du moi, source de tous les péchés, ait été crucifiée. L'œuvre confiée aux disciples réclamait une grande puissance, car la marée du mal déferlait sur eux, forte et profonde. Don de la parole. La culture et l'usage de la parole ont leur importance dans toutes les branches de l'activité chrétienne. Il faut s'habituer à avoir des intonations de voix qui plaisent, à ne se servir que d'expressions choisies et correctes, à être toujours aimable et courtois. Le prédicateur et le professeur devraient se rappeler qu'ils ont été appelés à délivrer un message qui aura d'éternelles conséquences. Au grand jour du règlement des comptes, c'est la parole qui a été annoncée qui jugera les âmes pour la vie ou pour la mort. Certaines accepteront ou rejetteront la vérité selon la manière dont elle aura été exposée devant elles. C'est pourquoi, veillons à présenter la parole de telle manière qu'elle fasse impression sur les cœurs. Il faut parler lentement, distinctement, avec solennité, tout en conservant la ferveur indispensable. En cherchant à attirer les âmes dans le cercle de cet amour, que votre langage élevé, votre vie désintéressée et votre joie soient un témoignage rendu à l'efficacité de sa grâce. Chaque chrétien est appelé à faire connaître à d'autres les insondables richesses du Sauveur. C'est pourquoi il devrait s'efforcer de cultiver le don de la parole afin de présenter l'Écriture de manière à la faire aimer de son auditoire. Il n'entre pas dans les desseins de Dieu que la grâce qui doit se répandre sur le monde soit contaminée par l'agent dont il se sert. Ils prendront des leçons de patience, de bonté, d'amabilité, de dévouement. Ils mettront en pratique la véritable courtoisie chrétienne, ayant bien dans l'esprit que le Christ, leur compagnon de route, ne peut approuver les paroles acerbes ou les sentiments malveillants. Leurs paroles seront purifiées. Ils considéreront comme un talent précieux, confié par Dieu pour accomplir une œuvre grande et sainte, la faculté qu'ils auront acquise de parler en public. Culture mentale. En tant que communauté, nous avons besoin de culture mentale afin de pouvoir faire face aux exigences de notre temps. Nous ne devons pas nous attendre au succès si nous nous engageons dans la bataille au hasard. Le Seigneur a besoin d'hommes qui réfléchissent. Il désire des collaborateurs et non des esservelés. Il a besoin d'hommes intelligents pour accomplir la grande œuvre du salut des âmes. D'aucuns doivent exercer leur esprit à la discipline. Ils doivent l'obliger à penser. En dépendant des autres pour réfléchir à leur place, pour résoudre leurs problèmes, et en se refusant de penser par eux-mêmes, ils seront incapables de maintenir leur faculté de mémorisation, de prévoyance et de discernement. Chacun doit s'efforcer de cultiver son esprit. Dieu ne souhaite pas que nous nous contentions d'un esprit paresseux et indiscipliné, d'une pensée terne et d'une mémoire émoussée. Les hommes de Dieu doivent être empressés à l'étude, appliqués dans l'acquisition des connaissances et ne jamais gaspiller ne fût-ce qu'une heure. Par un entraînement persévérant, ils peuvent accéder, en tant que chrétiens, au niveau les plus élevés de la culture pour devenir des hommes forts et influents. Appliquons-nous simplement à bien employer tous les instants dont nous disposons. Ce que nous serions tentés de dissiper en conversation futile ou au lit, le matin. Le temps passé dans le tramway ou le train, à la gare, avant de se mettre à table ou en attendant des gens qui ne sont pas exacts au rendez-vous, devrait être employé à la lecture ou à la méditation pieuse. Une énergique résolution, une application soutenue, une économie stricte de tous les instants, nous mettront à même de nous préparer à occuper n'importe quel poste de confiance. ceux qui occupent des postes de confiance ne devraient pas cesser de se développer. Qu'ils ne croient pas que les expériences du passé soient définitives et qu'ils ne considèrent pas comme inutile d'augmenter leur bagage intellectuel. L'homme, bien qu'il soit, à sa naissance, la plus faible des créatures de Dieu, et par nature la plus pervertie, est néanmoins susceptible de développement continuel. Il peut être éclairé par la science, ennobli par la vertu, et progresser mentalement et moralement jusqu'à ce qu'il atteigne à la perfection de l'intelligence et à la pureté du caractère qui n'est qu'un peu au-dessous de la perfection et de la pureté des anges. Il faut que ceux qui veulent être ouvriers avec Dieu cherchent à perfectionner toutes les facultés de leur intelligence et à entretenir leur corps en santé. La véritable éducation, c'est l'épanouissement de nos facultés physiques, mentales et morales en vue de l'accomplissement de nos devoirs, du développement de notre corps, de la formation de notre âme et de notre esprit pour le service de Dieu. C'est la seule éducation qui subsistera jusque dans la vie éternelle. Des techniciens, des avocats, des commerçants, bref, des hommes de toute profession acquièrent des connaissances qui leur permettent d'être des experts en leur matière. Les disciples du Christ devraient-ils être moins intelligents et s'engager au service de Dieu en ignorant tout des voies et des moyens? Obtenir la vie éternelle est une affaire plus importante que toute autre chose ici-bas. Afin d'amener les âmes à Jésus, il faut connaître la nature humaine. Il faut réfléchir sérieusement, prier avec ferveur pour savoir de quelle façon aborder les hommes et leur présenter la vérité contenue dans les Écritures. Dignité et politesse chrétienne. L'absence de vraie dignité et de raffinement chrétien chez les observateurs du sabbat nous dessert en tant que communauté et enlève de la saveur à la vérité que nous professons. L'éducation de la pensée et des mœurs est une œuvre qui doit être orientée vers la perfection. Si ceux qui professent la vérité ne s'efforcent pas dès maintenant d'user de leurs privilèges et de profiter des occasions qui se présentent pour croître jusqu'à la parfaite stature de Jésus-Christ, ils n'honoreront ni la cause de la vérité, ni la personne du Christ. Efforcez-vous de maintenir la dignité de votre travail par une vie bien ordonnée et une conversation pieuse. Ne craignez pas d'élever trop haut votre idéal. Nous devons éliminer toute grossièreté et toute rudesse, et cultiver la courtoisie, la distinction et la politesse chrétienne. Gardez-vous de la brusquerie et de la brutalité. Dieu ne tient pas ses particularités pour des vertus, inspirez-vous de son jugement à cet égard. Conduisez-vous de manière à éviter d'offenser qui que ce soit, à moins que cela ne devienne nécessaire. Il est grandement nécessaire que les hommes et les femmes qui connaissent la volonté de Dieu apprennent à devenir des ouvriers efficients dans sa cause. Ils doivent être pénétrés du sens de la politesse et avoir du discernement, loin de tout vernis trompeur et de toute affectation minaudière, empreint de mondanité. Ils doivent posséder le raffinement et la courtoisie authentique d'inspiration céleste, qui caractérisent tout chrétien participant à la nature divine. Nous possédons la vérité, l'espérance et la foi les plus grandes qui aient jamais été données au monde, et nous désirons les présenter à l'humanité dans leur caractère exaltant. Nous ne voulons pas prendre l'attitude des gens qui implorent le pardon du monde parce que nous osons croire en ces vérités sacrées et précieuses, mais nous voulons marcher humblement devant Dieu et mener une existence digne de notre condition d'enfant du Dieu très haut, et, bien qu'étant de faibles instruments, nous comporter comme nous occupons de choses à la fois intéressantes et importantes, plus élevées et plus exaltantes que n'importe quelle affaire temporelle appartenant au monde. Le travail en faveur des âmes nécessite de la consécration, de l'intégrité, de l'intelligence, de l'application, de l'énergie et du tact. Si l'on possède ces qualités, on ne sera jamais inférieur à sa tâche. Au contraire, on exercera pour le bien une influence déterminante. On doit choisir comme ouvriers évangéliques des hommes disposés à apprendre les meilleurs moyens d'entrer en contact avec les individus et les familles. Ils doivent porter des vêtements propres mais non extravagants, et avoir des manières qui ne détournent pas d'eux les gens. En tant que communauté, nous avons grandement besoin de vraie politesse. Celle-ci doit être recherchée par tous ceux qui font du travail missionnaire. Sincérité. La vie de ceux qui ont à proclamer un message aussi solennel, aussi sacré, ne doit contenir aucune infatuation. Le monde a les yeux sur les adventistes du septième jour, parce qu'il connaît leur profession de foi et leur idéal élevé. S'il constate que leur conduite n'est pas conforme à cette profession, il les regarde avec mépris. Des hommes peuvent posséder des dons éminents, de grandes capacités, de hautes qualités. Mais s'ils tolèrent un grave défaut, un péché secret, ils constateront qu'un madrier rongé de vers peut entraîner pour un bateau un désastre plus ou moins rapide suivi d'une ruine totale. Paul apportait avec lui l'atmosphère du ciel. Tous ceux qui l'approchaient ressentaient l'influence de sa communion avec le Christ. Le fait que sa propre vie illustrait la vérité qu'il proclamait, donnait à sa prédication une grande force de persuasion. Là réside la puissance de la vérité. L'influence dépourvue d'artifice et inconsciente d'une vie sainte est le sermon le plus convaincant qui puisse être prêché en faveur du christianisme. Un argument, même irréfutable, peut ne provoquer que de l'opposition. Mais l'exemple de la piété vécue a un pouvoir auquel il est impossible de résister entièrement. Le caractère n'est pas un manteau dont on peut se revêtir. C'est quelque chose qui rayonne de l'intérieur. Si nous voulons conduire d'autres âmes dans la voie de la justice, il faut que le principe de la justice soit enchâssé dans nos cœurs. On peut, par une simple profession de foi, proclamer la théorie de la religion, mais il faut une piété pratique pour placer la parole de vérité devant les yeux. Une vie conséquente, une conversation sainte, une intégrité inébranlable, un esprit actif, bienfaisant, un exemple de piété, voilà les moyens par lesquels la lumière est apportée au monde. Les prières, l'exhortation et la conversation sont des fruits courant facilement réunis. Mais les fruits que représentent les bonnes œuvres accomplies en secourant les nécessiteux, les orphelins et les veuves sont des fruits de valeur qui n'apparaissent tout naturellement que sur les bons arbres. Hardiesse. Dieu n'a pas l'habitude d'accomplir des miracles pour faire progresser la vérité. Si l'agriculteur montre de la négligence dans la culture de la terre, Dieu n'intervient pas pour en empêcher les conséquences. Il agit en conformité avec les grands principes qu'il nous a fait connaître, et la part qui nous incombe est d'élaborer des plans sages et d'utiliser les moyens grâce auxquels Dieu produira certains résultats. Ceux qui refusent tout effort déterminé et se contentent d'attendre que le Saint-Esprit les oblige à l'action sont voués à périr dans les ténèbres. Vous ne devez pas vous asseoir et refuser toute activité dans l'œuvre de Dieu, The Southern Watchman, 1er décembre 1903. Certains de ceux qui sont engagés dans le service missionnaire sont faibles, sans nerfs, sans vigueur, sans courage. Ils manquent d'élan. Ils n'ont pas les solides traits de caractère qui permettent d'entreprendre, l'esprit et l'énergie qui inspirent l'enthousiasme. Ceux qui veulent vaincre doivent être pleins de courage et d'espoir. Il ne leur faut pas seulement des qualités passives, mais actives. Le Seigneur a besoin d'ouvriers capables de provoquer le triomphe de la croix du Christ. Le message doit être proclamé avec clarté, hardiesse et vigueur, et non d'une manière terne, dépourvue de vie. La proclamation de ce message ne demande pas des orateurs brillants. La vérité doit être annoncée dans toute sa rigueur. Il faut des hommes d'action, des hommes capables de travailler avec une énergie sincère et constante à la proclamation du message d'avertissement au monde et à la purification de l'Église. Dans sa cause, Dieu n'a pas de place pour les paresseux. Il veut avoir des ouvriers réfléchis, aimables, aimants et sincères. Détermination. Que ceux qui sont au service de Dieu montrent leurs ailes dans l'œuvre du salut des âmes. Souvenons-nous qu'elles périront si nous ne sommes pas décidés à travailler sans nous décourager jamais. Il nous a confié une grande œuvre. Accomplissons-la avec fidélité. Manifestons dans nos vies ce que la vérité a fait pour nous. Zèle. Ce qu'il nous faut, c'est un zèle chrétien, un zèle qui se manifeste par des œuvres. Si nous avons le Christ en nous, nous ne pourrons pas plus nous empêcher de le confesser que les chutes du Niagara ne pourraient s'empêcher de couler. Tous ceux qui acceptent le Christ comme leur sauveur personnel voudront le servir. En contemplant ce que le ciel a fait pour eux, leur cœur sera rempli d'amour et d'adoration reconnaissante. Ils s'empresseront de manifester leur gratitude en consacrant leur talent au service de Dieu. Ils désireront montrer leur amour pour le Christ et pour ceux qu'il a rachetés. Toute leur vie sera faite de labeur pour lui, de privation et de sacrifice. Un vaste champ d'activité s'ouvre devant les Marthe zélées pour l'œuvre religieuse. Mais il faut d'abord qu'elles s'asseyent, avec Marie, au pied de Jésus. Il faut que la diligence, la promptitude et l'énergie soient sanctifiées par la grâce du Christ, pour que la vie devienne une puissance invincible au service du bien. Au nom du Seigneur et en nous inspirant de l'infatigable persévérance et du zèle constant qu'il a lui-même déployé, nous devons poursuivre son œuvre. Il faut briser la monotonie de nos travaux religieux. Nous accomplissons une œuvre dans le monde, mais nous ne sommes pas suffisamment actifs et zélés. Si nous étions plus fervents, les hommes seraient convaincus de la véracité de notre message. La mollesse et la monotonie de notre service pour Dieu repoussent de nombreuses âmes d'une classe élevée de la société, qui s'attendent à voir en nous un zèle plus ardent, plus profond, plus sanctifié. Patience. Pour devenir les collaborateurs de Jésus, vous devez user de beaucoup de patience à l'égard de ceux pour lesquels vous travaillez, en agissant avec simplicité, et en ayant en vue les heureux résultats qui en découleront. Lorsque ces personnes ne partagent pas exactement votre point de vue, vous êtes enclin à dire « qu'elles s'en aillent ». Elles ne méritent pas d'être sauvées. Que serait-il advenu si le Christ avait traité de cette manière les gens appartenant au niveau le plus bas de la société ? Il est mort pour le salut de tous les pauvres pécheurs, et si vous vous inspiriez du même esprit, et agissiez suivant l'exemple qu'il a donné, vous qui êtes ses disciples, en laissant à Dieu le soin des résultats, vous ne pourriez pas vous imaginer la somme de bien que vous auriez accompli dans cette vie. Travaillez avec désintéressement, amour et patience en faveur de tous ceux avec qui vous entrez en contact. Ne manifestez pas d'irritation. Ne prononcez aucune parole impatiente. Que l'amour du Christ demeure dans votre cœur et que des paroles aimables sortent de vos lèvres. Tact. Ceux qui s'abandonnent entièrement à Dieu mettront dans leurs travaux beaucoup de réflexion, de prière et un tact diligent et consacré. Lorsqu'un homme possède du tact, du savoir-faire et de l'enthousiasme, il réussit dans sa carrière, et s'il utilise ces mêmes qualités au service de Dieu, les résultats seront deux fois supérieurs, car la puissance divine s'ajoutera aux efforts humains. Dans l'œuvre du salut, il faut beaucoup de tact et de sagesse. Le Sauveur n'a jamais dissimulé la vérité, mais il l'a toujours dite avec amour. Dans ses rapports avec autrui, il faisait preuve du plus grand tact et il était toujours bon et plein de sollicitude. Jamais rude, ce n'était pas sans nécessité qu'il disait une parole sévère, et il ne faisait jamais inutilement de la peine à une âme sensible. Il ne condamnait pas la faiblesse humaine. S'il dénonçait sans peur l'hypocrisie, l'incrédulité, l'iniquité, il avait des larmes dans la voix tandis qu'il faisait ses graves reproches. Il ne disait jamais la vérité cruellement, mais manifestait toujours une profonde tendresse pour l'humanité. Chaque âme était précieuse à ses yeux. Il portait sur lui la majesté divine, mais il se penchait avec compassion et respect sur chaque membre de la famille de Dieu. Il voyait dans tout homme une âme qu'il avait mission de sauver. Certaines personnes sincères, mais irréfléchies et impulsives, après une conférence sur un sujet donné, aborderont d'une manière brusque ceux qui ne sont pas encore avec nous et leur rendront la vérité peu attrayante. Les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Les hommes d'affaires et les politiciens s'efforcent d'être courtois, afin d'avoir un abord aussi attrayant que possible. Ils cherchent à parler et à se présenter de telle sorte qu'ils puissent avoir la plus grande influence possible sur l'esprit de ceux qui les entourent. Ils emploient leurs connaissances et leurs talents aussi judicieusement que possible pour arriver à leur fin. Ce message doit être proclamé. Mais en l'annonçant, nous devons nous abstenir d'attaquer, de dominer et de condamner ceux qui n'ont pas la lumière que nous possédons. Nous ne devons pas nous livrer à des attaques virulentes contre les catholiques. Il y a parmi eux des chrétiens très consciencieux, qui marchent dans toute la lumière qui les éclaire, et Dieu agira en leur faveur. Constance. Le vrai chrétien travaille pour Dieu, non pas sous l'effet d'une impulsion, mais en obéissant à un principe. Et non pas un jour ou un mois, mais sa vie entière. Le Sauveur travaillait sans relâche. Il ne comptait pas ses heures. Son temps, son cœur, ses forces étaient vouées au service de l'humanité. Ses journées entières étaient consacrées au travail, puis il passait des nuits entières en prière, en vue de pouvoir résister à toutes les ruses de l'ennemi, et d'avoir la force pour accomplir son œuvre de relèvement en faveur de l'humanité. Celui qui aime Dieu n'adopte pas la journée de 8 heures. Il travaille à toute heure, et ne prend jamais congé du devoir. Chaque fois que l'occasion s'en présente, il fait du bien. Partout et toujours, il trouve le moyen de travailler pour Dieu. Où qu'il aille, il dégage un parfum sur son passage. Celui qui, par quelque acte inconsidéré, expose la cause du Seigneur à l'opprobre ou affaiblit les mains de ses compagnons de travail, fait rejaillir sur son propre caractère une tâche qui ne s'enlève pas facilement. Il dresse un obstacle sérieux sur le chemin qu'il doit suivre pour être utile. Prenez mon joug sur vous, dit Jésus. Le joug est un instrument de service. Le bétail est soumis au joug afin de fournir un travail effectif. Cette image est employée par le Christ pour montrer que nous sommes appelés au service aussi longtemps que dure notre vie. Il nous faut nous charger de son joug et devenir ainsi ses collaborateurs. Sympathie et sociabilité. Dans chaque domaine de l'œuvre de Dieu, il faut des hommes et des femmes qui savent compatir aux maux de l'humanité. Mais une telle sympathie est rare. Nous avons besoin d'éprouver plus de sympathie chrétienne. Il nous en faudrait non seulement envers ce qui nous paraît irréprochable, mais encore envers les pauvres âmes qui souffrent et qui luttent, qui pêchent et se repentent, qui sont vaincues par la tentation et se sentent découragées. Comme notre miséricordieux souverain sacrificateur, nous devons nous approcher de nos semblables, émus de compassion pour leur faiblesse. En tant que peuple, nous perdons beaucoup par manque de sympathie et de sociabilité. Celui qui parle d'indépendance et qui se replie sur lui-même n'accomplit pas la tâche que Dieu lui a désignée. Nous sommes enfants de Dieu et pour notre bonheur nous dépendons les uns des autres. Dieu et l'humanité ont besoin de nous. Il nous faut jouer tout notre rôle dans cette vie. C'est la culture des éléments sociaux de notre nature qui nous amène à sympathiser avec nos frères, nous apportant ainsi le bonheur par les efforts mêmes que nous faisons pour le bien de nos semblables. Un jour, le Sauveur fut invité à un festin donné par un pharisien. Il acceptait d'aller chez les riches aussi bien que chez les pauvres, et selon son habitude, il illustrait ses enseignements par les scènes qu'il avait sous les yeux. Simplicité. Lorsque le Christ dit à ses disciples, « Allez en mon nom rassembler tous ceux qui croient », il plaça nettement devant eux la nécessité de maintenir la simplicité. Moins ils manifesteraient d'ostentation et de déploiement extérieur, plus grande serait leur influence pour le bien. Les disciples devaient parler avec la simplicité dont le Christ lui-même avait fait preuve. Des milliers de personnes peuvent être touchées de la façon la plus humble. Les plus intellectuels, les mieux doués, reçoivent souvent le plus grand bien des simples paroles d'une âme qui aime Dieu et qui peut parler de cet amour aussi naturellement que l'homme du monde s'entretient des intérêts qui lui sont les plus chers. Souvent, les discours les mieux préparés et les plus soigneusement étudiés ne produisent que peu d'effets, mais le témoignage loyal et sincère d'un fils ou d'une fille de Dieu, énoncé avec une simplicité naturelle, a la puissance d'ouvrir des portes longtemps fermées au Christ et à son amour. Foi. Les ouvriers du Seigneur ont besoin d'avoir foi en lui. Il s'occupe de leurs travaux et en connaît la valeur. Des instruments divins sont désignés pour coopérer avec ceux qui collaborent avec Dieu. Lorsque nous croyons que Dieu ne tiendra pas ses promesses et qu'il ne prend pas de temps pour s'occuper de ses ouvriers, nous le déshonorons en tant que notre Créateur, The Southern Watchman, 2 août 1904. Il faut à l'ouvrier de Dieu une foi puissante. Les circonstances peuvent sembler défavorables, mais dans les heures les plus sombres, la lumière n'en existe pas moins. La force de ceux qui, par la foi, aiment et servent Dieu, se renouvelle de jour en jour. Il y a dans la foi véritable une vie, une fermeté de principe, une détermination qui ne peuvent être affaiblies ni par le temps ni par le travail. La vie du chrétien est souvent traversée de dangers, et le devoir semble parfois dur à accomplir. Son imagination dresse devant lui une ruine inévitable et derrière lui l'esclavage ou la mort. Et cependant, la voix de Dieu est claire, qui lui dit « Marche ». À nous d'obéir à la consigne reçue. Peu importe si nos yeux ne peuvent pénétrer les ténèbres qui nous enveloppent, et si les ondes froides baignent déjà nos pieds. Les obstacles qui nous arrêtent ne disparaîtront jamais devant un esprit indécis et incrédule. Ce qui renvoie le moment d'obéir jusqu'à ce qu'ait disparu toute ombre d'incertitude et jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune possibilité de défaite, n'obéiront jamais. Le doute murmure, attends que soient tombées les entraves, et que tu vois clairement ta voie. Mais la foi qui espère tout et qui croit tout, dit courageusement, en avant. Courage. Une grande œuvre doit être accomplie, des plans plus étendus doivent être établis. Une voix doit s'élever pour réveiller les nations. Les hommes dont la foi est faible et chancelante ne peuvent être désignés pour faire progresser l'œuvre à une époque de crise. Ce qu'il faut, c'est le courage des héros et la foi des martyrs. Lorsque, par la foi, nous nous emparons de sa puissance, il transforme radicalement une situation, quelque décourageante et désespérée qu'elle soit. Il le fait pour la gloire de son nom. Dieu invite ses fidèles, qui croient en lui, à encourager ceux qui doutent et qui ont perdu l'espoir. Que le Seigneur nous aide à nous soutenir les uns les autres et à témoigner de lui par une foi vivante. L'espoir et le courage sont essentiels dans un service agréable à Dieu. Ce sont les fruits de la foi. Le découragement est coupable et déraisonnable. Aux disciples de Jésus, il faut du courage, de l'énergie et de la persévérance. Bien que des obstacles en apparence insurmontables obstruent la route, les ministres de l'Évangile peuvent aller de l'avant, soutenus par la grâce. Au lieu de se plaindre des difficultés, ils s'efforceront de les surmonter. Ils ne doivent désespérer de rien, mais tout espérer. Avec la chaîne d'or de son incomparable amour, Jésus les a reliés au trône de Dieu. Son dessein est que la plus haute influence de l'univers, émanant de la source de la toute-puissance, soit la leur. Ils résisteront au mal, avec cette force que ni le monde, ni la mort, ni l'enfer ne peuvent maîtriser, et qui les rendra capables de vaincre comme le Christ lui-même a vaincu. Consécration. La véritable sainteté est une consécration totale au service de Dieu. Sans une telle consécration, il ne saurait y avoir de vie chrétienne véritable. Le Christ exige de nous une consécration sans réserve. Il réclame notre cœur, notre âme, notre esprit, nos forces à son service. Celui qui ne vit que pour lui-même n'est pas chrétien. La première chose que doit faire celui qui veut devenir ouvrier avec Dieu, c'est d'apprendre à se défier de lui-même. Ainsi seulement on peut devenir participant du caractère du Christ. Ce résultat ne s'obtient pas par la science des écoles, mais par la sagesse apprise, uniquement, auprès du divin maître. Le fait qu'une personne manifeste une extase spirituelle dans des circonstances exceptionnelles ne prouve pas d'une manière évidente qu'elle est chrétienne. La sainteté n'est pas une extase, c'est un abandon total à la volonté de Dieu. C'est vivre chaque parole qui sort de sa bouche, accomplir sa volonté, se réfugier en lui dans l'épreuve, dans les ténèbres aussi bien que dans la lumière. C'est marcher par la foi et non par la vue, s'attendre à Dieu en toute confiance et se reposer sur son amour. De tout son cœur. Il faut que les croyants se distinguent du monde en servant Dieu de tout leur cœur. Ils ne doivent s'arroger aucun honneur, mais se rappeler qu'ils sont solennellement engagés à ne servir que le Seigneur. ne peuvent subsister dans l'épreuve présente que des hommes et des femmes consacrés dont le cœur est entièrement engagé. Le Christ a maintes fois soumis ses disciples au crible, jusqu'à ce qu'il en restât 11 seulement et quelques femmes fidèles pour poser les fondements de l'Église chrétienne. Certains membres habituellement peu disposés à se charger de fardeaux peuvent, lors d'un réveil de l'Église, partager l'enthousiasme général, chanter, pousser des cris, et aller jusqu'à l'extase. Mais, observez-les, et vous verrez, lorsque les manifestations de ferveur seront apaisées, que très peu d'entre eux seront des Caleb fidèles, s'avançant pour appliquer des principes inébranlables. Ils sont semblables au sel qui retient sa saveur. Les églises forment les vrais collaborateurs par les difficultés qui surviennent au cours d'une activité intense. On ne peut réussir au service de Dieu si l'on ne met pas son cœur tout entier à l'ouvrage, si toutes choses ne sont pas considérées comme une perte en comparaison de l'excellence de la connaissance du Christ. Celui qui fait des réserves ne saurait devenir un disciple du Christ, encore moins l'un de ses collaborateurs. Que le peuple de Dieu ne se laisse donc pas gagner par l'esprit de spéculation, qu'il ne s'associe pas à des incroyants pour se lancer dans des entreprises commerciales. Car il serait entravé dans la tâche qui lui a été assignée par le Seigneur. Le Rédempteur n'acceptera pas un service partagé. Journellement, le ministre de Dieu doit apprendre le sens du véritable renoncement. Loyauté. Le Seigneur a de l'aversion pour l'indifférence et l'infidélité manifestée au cours des crises que traverse son œuvre. Tout l'univers s'intéresse d'une manière inexprimable aux dernières scènes de la grande lutte entre le bien et le mal. Le peuple de Dieu approche des rivages du monde éternel. Que peut-il y avoir de plus important pour lui que de rester fidèle au Très-Haut? À travers tous les âges, le Seigneur a eu ses héros spirituels, et il en possède encore aujourd'hui, des héros qui, tels Joseph, Élie, Daniel, ne craignent pas de dire qu'ils font partie du peuple élu. Des bénédictions spéciales sont accordées aux hommes d'action, qui ne dévient jamais du sentier du devoir, et qui s'écrient avec une énergie toute divine. À moi ceux qui sont pour l'Éternel. Ces hommes ne se contentent pas de prononcer ces paroles, ils exigent aussi de ceux qui veulent s'identifier au peuple de Dieu qu'ils avancent résolument et montrent clairement leur attachement au roi des rois, et au seigneur des seigneurs. De tels hommes subordonnent leur volonté et leurs plans à la loi divine. Par amour pour le Seigneur, ils ne font aucun cas de leur vie. Tout ce qu'ils désirent, c'est de saisir la lumière de la parole de Dieu et de la faire resplendir dans le monde. Fidèles à Dieu, telle est leur devise. Promptitude. Le devoir de chaque chrétien est d'acquérir des habitudes d'ordre, de savoir-faire et de diligence. La négligence est inexcusable. Quand celui qui travaille n'arrive pas à un résultat, c'est qu'il n'y a pas consacré toute son ardeur. Celui qui manque d'habileté et qui, par conséquent, a de la peine à se tirer d'affaire dans la vie, doit savoir qu'il a contracté une mauvaise habitude dont il doit se corriger. Il faut qu'il s'applique à tirer de son temps le meilleur parti possible. Avec du tact et de la méthode, il est des personnes qui, en 5 heures, feront autant de travail que d'autres en 10. Il est des ménagères qui sont toute la journée au travail, non parce qu'elles ont fort à faire, mais parce qu'elles ne travaillent pas avec méthode. Par leur lenteur et leur manière dilatoire, elles se donnent beaucoup de peine pour peu de choses. Mais tous ceux qui le désirent peuvent vaincre ces habitudes regrettables. Ils n'ont qu'à se fixer un but précis, et décider du temps nécessaire pour une tâche donnée. En exerçant leur volonté, leurs mains deviendront plus habiles. Le service pour le Christ exige une prompte obéissance, The Southern Watchman, 9 août 1904. Le Seigneur désire voir chez ses serviteurs un esprit prompt à saisir la valeur des âmes, à discerner les devoirs du moment, à assumer les responsabilités qu'il place sur eux. La promptitude dans le service de Dieu est une partie importante de la vraie religion. On devrait saisir les circonstances favorables pour accomplir la volonté du Seigneur. L'action rapide et décisive au moment opportun assure d'éclatantes victoires, alors que le retard et la négligence aboutissent à l'insuccès qui déshonore Dieu. maintenir des principes élevés. Bien des prédicateurs qualifiés pour faire un travail excellent ont peu de résultats parce qu'ils entreprennent peu. Des milliers de gens traversent la vie comme s'ils n'avaient pas de but élevé ni d'idéal à atteindre. Une des raisons en est le peu d'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Mais le Christ a payé pour nous un prix infini et il désire que nous nous évaluions à la mesure de cette rançon. Pendant toute sa vie terrestre, Jésus fut un travailleur assidu. Il s'attendait à beaucoup, et il entreprenait beaucoup. Ceux qui sont au service du Maître ont besoin d'une expérience plus haute, plus profonde, plus large, telle qu'ils n'ont jamais pensé en avoir une. Beaucoup de ceux qui sont déjà des membres de la grande famille de Dieu savent encore bien peu ce que c'est que de contempler sa gloire et que d'être changés de gloire en gloire. Beaucoup ont une faible perception de l'excellence du Christ et leur cœur cependant tressaille déjà de joie. Ils soupirent après un sentiment plus plein, plus profond de l'amour du Sauveur. Qu'ils se complaisent en chacun de ces désirs de l'âme pour Dieu. J'ai un message à donner à nos prédicateurs, médecins, professeurs et à tous ceux qui travaillent au service du Maître. Le Seigneur vous supplie de chercher à parvenir à un idéal de sainteté plus élevé. Vous devez arriver à posséder une expérience si profonde qu'elle dépasse tout ce que vous avez pu imaginer. Beaucoup de ceux qui sont déjà membres de la grande famille de Dieu savent encore bien peu de ce que cela représente que de contempler sa gloire et d'être changés de gloire en gloire. Plusieurs d'entre vous ont une faible perception de l'excellence du Christ, et cependant votre âme tressaille déjà de joie. Vous soupirez après un sentiment plus total, plus profond de l'amour du Sauveur. Vous êtes insatisfait. Mais ne désespérez pas. Donnez à Jésus le meilleur et ce qu'il y a de plus sacré des affections de votre cœur. Emparez-vous de chaque rayon de lumière. Cultivez toutes les aspirations de votre âme vers Dieu. Entretenez les pensées spirituelles et les saintes communions. Vous n'avez vu que les premiers rayons de l'aube de la gloire divine. En accroissant votre connaissance du Seigneur, vous apprendrez que sa marche est semblable à celle du matin. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Nous étant repentis de nos péchés, les ayant confessés et ayant obtenu le pardon, nous devons grandir dans la connaissance du Christ jusqu'à ce que nous arrivions à la lumière du milieu du jour d'une foi évangélique parfaite. Prudence et prévoyance. Pendant que Néhémie implorait l'aide de Dieu, il ne se croisait pas les bras en prétextant qu'il n'avait aucun souci à se faire ni de responsabilité à assumer pour la réalisation de son projet de restauration de Jérusalem. Guidé par une prudence et une prévoyance admirables, il fit tous les arrangements nécessaires pour assurer le succès de cette entreprise. Chacune de ses initiatives fut marquée d'une grande prudence. L'exemple de cet homme pieux, Néhémie, doit servir de leçon au peuple de Dieu tout entier, qui ne doit pas se limiter à prier avec foi, mais doit travailler avec diligence et fidélité. Combien de difficultés ne nous créons-nous pas et combien souvent n'entravons-nous pas l'action de la Providence en notre faveur du fait que nous croyons que la prudence, la prévoyance et l'application ne font pas partie de la vie religieuse. Nous commettons ainsi une grave erreur. Il est de notre devoir de posséder et de cultiver toute faculté susceptible de nous aider à être des ouvriers pour Dieu plus efficients. Pour assurer aujourd'hui la réussite des entreprises sacrées, il est tout aussi indispensable qu'il l'était au temps de Néhémie d'en faire un examen consciencieux et de dresser des plans mûrement réfléchis. Comment combattre le découragement? Les serviteurs de Dieu doivent prévoir toutes les formes de découragement. Ils seront éprouvés, non seulement par la colère, le mépris et la cruauté des ennemis, mais aussi par l'indolence, l'inconséquence, la tiédeur et la perfidie des amis et des collaborateurs. Même certaines personnes qui semblent désirer la prospérité de l'œuvre de Dieu affaiblissent les mains de ses serviteurs en écoutant, en acceptant plus ou moins et en répandant les médisances, les vantardises et les menaces de leurs adversaires. Au milieu de nombreux découragements, Néhémie plaça sa confiance en Dieu. Et c'est aussi en Dieu que nous trouvons notre sécurité. Le souvenir de ce que le Seigneur a accompli en notre faveur sera pour nous une aide dans tous les dangers. Lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle que soit l'habileté avec laquelle Satan et ses agents ont tendu leur piège, Dieu peut les détecter et les réduire à néant. Ce que le Saint-Esprit a chargé d'accomplir une tâche particulière, et qui occupe la pointe du combat, subissent fréquemment une certaine réaction lorsque la calamité s'estompe. Le découragement peut ébranler la foi la plus solide, affaiblir la volonté la plus ferme. Mais le Seigneur comprend tout, et il ne cesse d'aimer et d'avoir pitié de ses enfants. Il lit dans leur cœur les intentions et les desseins qui les animent. Attendre avec patience et confiance lorsque tout paraît sombre, voilà ce que tous ceux qui ont la charge de l'œuvre de Dieu devraient apprendre. Le ciel n'abandonne jamais les siens dans l'adversité. Aucune situation n'est apparemment plus désespérée, et cependant plus triomphante, que celle de l'homme conscient de son néant, et pleinement confiant en Dieu. Le Seigneur réclame des soldats qui ne manquent pas à leur devoir ni ne se laissent aller au découragement, mais qui acceptent la tâche avec tous ses désagréments. Il veut que nous prenions le Christ pour exemple. Ceux qui, de nos jours, prêchent des vérités difficiles à accepter ne doivent pas se décourager s'ils ne rencontrent pas toujours un accueil plus favorable, même parmi ceux qui se disent chrétiens, que celui que reçurent Paul et ses compagnons de la part de ceux en faveur de qui ils travaillaient. Les messagers de la croix doivent se donner à la vigilance et à la prière, avancer avec courage et foi, travaillant sans relâche au nom de Jésus. Amabilité. Un esprit qui sait rester aimable, malgré les injures, servira plus favorablement la vérité que les arguments les plus puissants. Nos paroles destinées à détourner les hommes de leurs erreurs doivent être empreintes de beaucoup de douceur, à la manière de la rosée matinale qui, après une période de sécheresse, tombe sur les plantes flétries et les ranime. Le dessein de Dieu est d'atteindre d'abord les cœurs. Parlons de la vérité avec amour, comptant sur Dieu qui seul peut réformer les vies. Le Saint-Esprit fera pénétrer jusqu'au fond de l'âme les mots ainsi prononcés. La tendresse, la douceur et l'amabilité apportent le salut aux égarés et couvrent une multitude de péchés. La manifestation de l'Esprit du Christ dans votre caractère opérera chez ceux qui vous entourent une réelle transformation. Laissez Jésus agir dans votre cœur jour après jour et vous verrez se développer en vous la puissance créatrice de sa parole, une influence douce, persuasive mais efficace, qui recréera dans d'autres âmes la beauté du Seigneur notre Dieu. Impartialité. Aussi longtemps qu'il vécut parmi les hommes, le Sauveur partagea le sort des pauvres. Il connut par expérience leurs soucis et leurs misères, ce qui le rendait à même de réconforter tous les humbles ouvriers. Ceux qui ont une juste conception des enseignements se dégageant de sa vie ne penseront jamais qu'il y ait lieu de faire une distinction entre les classes de la société. Les riches n'ont aucun droit à être plus honorés que les pauvres. Lorsque vous vous détournez de ceux que vous jugez peu intéressants, vous rendez-vous compte que vous négligez des âmes que le Seigneur recherche ? C'est au moment où elles ont le plus grand besoin de votre compassion que vous vous détournez d'elles. Dans toutes les églises, il y a des âmes qui aspirent au repos et à la paix. Elles peuvent paraître indifférentes, mais elles ne sont pas insensibles à l'influence du Saint-Esprit, et beaucoup d'entre elles pourraient être gagnées au Sauveur. L'appel évangélique ne doit pas être rétréci et présenté uniquement à un petit nombre de personnes choisies que l'on supposerait prêtes à nous faire l'honneur de l'accepter. Le message doit être donné à tous. Partout où des cœurs s'ouvrent à la vérité, le Christ est prêt à les instruire. Honnêteté, fidélité, assiduité. Lorsqu'il s'agit de confier des responsabilités à une personne, la question qui se pose n'est pas de savoir si elle est douée pour parler en public ou si elle est riche, mais si elle est honnête, fidèle et assidue au travail. Car, quelles que soient ses références, si elle ne possède pas ces qualités, elle ne pourra jamais accéder à des postes de responsabilité. Désintéressement. La manière dont le Sauveur travaillait doit nous servir d'exemple. Il ne cessait d'aller de lieu en lieu, faisant du bien. Au temple, dans les synagogues, dans les rues, sur les places publiques, dans les ateliers, sur le rivage de la mer et sur les collines, il prêchait l'évangile et guérissait les malades. Sa vie désintéressée est pour nous une leçon. Son amour tendre et compatissant condamne notre égoïsme. Nous ne devons pas travailler uniquement pour se voir un salaire. Au service du Seigneur, l'intérêt personnel ne compte pas. Le renoncement et l'esprit de sacrifice ont toujours été et resteront toujours les premières qualités requises pour accomplir un service agréable à Dieu. Notre Seigneur et Maître ne conçoit pas qu'un seul filament d'égoïsme soit tissé dans son ouvrage. Déployons dans notre travail le tact, l'habileté, la précision et la sagesse que le Dieu de perfection exigea des constructeurs du tabernacle. Il faut se souvenir cependant que les plus grands talents, les services les plus brillants ne sont agréables au Seigneur que si notre moi est déposé sur l'autel du sacrifice. De tous les êtres humains, les réformateurs doivent être les plus disposés à s'oublier, les plus affables, les plus courtois. Il faut que la véritable bonté se manifeste dans leur vie par des actes désintéressés. Ne pas s'inquiéter. Les choses vont mal à cause du manque de consécration des ouvriers évangéliques. Cet état de choses peut vous faire verser des larmes. Mais ne soyez pas inquiets. Le Maître tient son œuvre entière, du commencement à la fin, sous sa direction compétente. Tout ce qu'il exige est que ses ouvriers s'adressent à lui pour recevoir ses ordres et qu'ils obéissent à ses directives. L'ensemble de l'œuvre, nos églises, nos missions, nos écoles du sabbat, nos institutions, est l'objet de la sollicitude de son cœur. Pourquoi s'inquiéter? L'intense désir de voir l'Église devenir une lumière vivante et éclatante conformément à la volonté divine doit être accompagné d'une totale confiance en Dieu. Recherchez la quiétude et remettez vos âmes à Dieu, le fidèle Créateur. Il gardera le dépôt qui lui est confié. Il n'aime pas que nous couvrions son autel de pleurs et de lamentations. Vous avez déjà suffisamment de sujets de louange, même si vous n'assistez pas à la conversion d'une autre âme. Mais la bonne œuvre se poursuivra si seulement vous allez de l'avant sans vous efforcer de tout ramener à votre point de vue. Que la paix de Dieu règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Laissez de la place à Dieu pour qu'il puisse agir. N'obstruez pas son chemin. Il peut et veut agir si vous lui en laissez la liberté. Portez les lettres de créance divine. Dieu ne peut se servir d'une personne que dans la mesure où il lui sera possible de déverser son esprit dans son cœur. Le travail qu'il accepte, c'est celui qui reflète son image. Ses disciples doivent porter, comme lettres de créance, les marques indélébiles de ses principes immortels. Il fallait que le nom du Christ soit leur mot d'ordre, l'insigne qui les distinguerait, l'autorité sur laquelle s'appuierait leur action, et la source de leur succès. Tout, dans son royaume, devait porter son nom et sa suscription. Disponibilité totale. Soyez toujours totalement disponible pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Les serviteurs de Dieu doivent être alertes, sur le qui-vive, toujours prêts et prompts à entrer à tout instant dans la voie que leur ouvre la Providence. Tout délai de leur part fournit à Satan l'occasion de leur infliger une défaite. Le peuple qui observe les commandements de Dieu doit constamment se tenir prêt à servir. Les vrais représentants du Christ travaillent pour le bien de leurs semblables. Ils trouvent leur joie à faire progresser l'œuvre de Dieu dans leur pays et ailleurs. On les voit et on les entend aux réunions de prière, et leur influence s'y fait sentir. Ils s'efforcent d'aider, et éventuellement de remplacer le prédicateur, dont ils n'ont pas les charges. Ils ne cherchent pas à se mettre en évidence ou à recevoir un honneur quelconque pour ce qu'ils accomplissent, mais ils travaillent humblement, avec douceur et fidélité, qu'il s'agisse de petits travaux ou de tâches plus importantes, suivant les nécessités, parce que le Christ a fait beaucoup pour eux. Courageux et sincère. Ce dont l'Église a besoin, à notre époque troublée, c'est d'une armée d'ouvriers évangéliques, formés pour le service comme le fut Paul, d'ouvriers ayant une expérience profonde des choses de Dieu, et travaillant avec zèle et ardeur. Il faut des hommes sanctifiés et prêts au sacrifice, des hommes qui ne reculent ni devant l'épreuve, ni devant la responsabilité. Des hommes intrépides et sincères dans le cœur desquels le Christ est l'espérance de la gloire, dont les lèvres ont été touchées par le charbon ardent, et qui prêchent la parole. La cause de Dieu périclite parce qu'on manque de tels hommes. Comme un poison mortel, de fatales erreurs pervertissent la moralité et ternissent les espoirs d'une grande partie de l'humanité. C'est par un travail agressif, au milieu de l'opposition, des dangers, des pertes et des souffrances qu'il faut poursuivre l'œuvre du salut des âmes. Au cours d'une certaine bataille, alors qu'un régiment de la troupe chargée d'attaquer reculait devant l'ennemi, le porte-drapeau, au lieu de suivre le mouvement de repli, resta immobile. Le capitaine lui ayant crié de ramener le drapeau, il répliqua « Ramenez les hommes au drapeau ». Voilà l'œuvre de tout fidèle porte-étendard, « Ramenez les hommes au drapeau ». Le Seigneur demande des hommes qui donnent tout leur cœur. Nous savons tous que le péché de beaucoup de gens qui se disent chrétiens est de manquer de courage et d'énergie pour s'élever eux-mêmes et ceux dont ils s'occupent à la hauteur de l'idéal. Dieu ne peut employer des hommes qui, au moment du danger, alors que leur influence, leur force, leur courage sont indispensables, craignent de prendre position pour ce qui est juste. Il réclame des hommes qui luttent fidèlement contre le mal, contre les principautés et les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits malins qui sont dans les lieux célestes. C'est à ceux-là qu'il adressera un jour ses paroles, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. » Dieu réclame des hommes comme Élie, Nathan, Jean-Baptiste, des hommes qui proclament son message sans tenir compte des conséquences qui en résultent, des hommes qui répandent courageusement la vérité, bien que cela entraîne le sacrifice de tout ce qu'ils possèdent. Sollicitude du berger. Le berger qui s'aperçoit qu'il lui manque une brebis, ne se contente pas de regarder son troupeau et de dire, « Après tout, il m'en reste encore 99 qui sont en lieu sûr. » Aller à la recherche de celle qui manque à l'appel serait trop pénible. Qu'elle revienne, je lui ouvrirai la porte du bercail. Non, dès qu'il s'aperçoit qu'il manque une brebis, il est saisi d'angoisse et de tristesse, et se met à compter et recompter son troupeau. Dès qu'il est sûr de sa disparition, il ne peut plus dormir, il laisse les 99 dans la bergerie pour aller à la recherche de l'égaré. Plus la nuit est sombre et orageuse, et plus dangereux sont les sentiers, plus grande est la sollicitude du berger, et plus actives sont ses recherches. Il fait l'impossible jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Quel soulagement n'éprouve-t-il pas quand il entend au loin son bêlement plaintif? Guidé par le son de ses plaintes, il gravit les pentes les plus escarpées. Il va jusqu'au bord du précipice, au risque de sa propre vie. Il continue ses recherches tandis que les bêlements de plus en plus faibles de la brebis lui font comprendre qu'elle va mourir. Enfin, ses efforts sont couronnés de succès. Sa brebis est retrouvée. Il ne lui fait pas d'inutiles reproches parce qu'elle lui a causé tant de soucis et de fatigue. Il ne la chasse pas devant lui avec son fouet. Il n'a même pas l'idée de la conduire à la bergerie. Mais, dans sa joie débordante, il la charge toute tremblante sur ses épaules. Si elle est meurtrie et blessée, il la prend dans ses bras, la presse et la réchauffe sur son sein pour lui redonner la vie, et, heureux que ses peines n'aient pas été vaines, il la ramène au bercail. Humilité. En choisissant des hommes et des femmes pour son service, Dieu ne demande pas s'ils sont instruits, éloquents ou riches en bien de ce monde, mais s'ils ont assez d'humilité pour recevoir ses enseignements, s'il peut mettre ses paroles sur leurs lèvres, s'ils sont disposés à être ses représentants. Dans votre travail en faveur des pauvres, des méprisés, des abandonnés, ne restez pas drapés dans votre dignité et dans votre supériorité, car en agissant ainsi vous ne feriez rien de bon. Ce qui permettrait à nos églises d'avoir de la vigueur dans leurs efforts et de réussir, ce n'est pas l'agitation, mais l'action tranquille et humble. Ce n'est pas l'ostentation, ni la grandiloquence, mais le travail patient, persévérant, inspiré par la prière. L'humiliation de la défaite devient fréquemment un bienfait, en nous faisant comprendre notre incapacité à accomplir la volonté de Dieu sans son aide. Les talents de l'homme humble sont utiles dans le travail de maison en maison, et peuvent accomplir davantage que les dons les plus brillants. Le ciel tout entier s'intéresse à l'œuvre qu'accomplissent dans le monde les messagers de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une œuvre importante, frères et sœurs, et, en vue de la réaliser en toute sincérité, nous devons nous humilier chaque jour devant Dieu et ne pas croire que notre sagesse soit parfaite. Nous ne devons pas demander à Dieu qu'il nous humilie, car lorsque Dieu se saisit de nous, il peut nous humilier d'une manière qui ne nous soit pas agréable. Mais nous devons jour après jour nous humilier nous-mêmes sous la puissante main de Dieu. Nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Tandis que Dieu opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, nous devons coopérer avec lui en même temps qu'il agit par nous. Nous devons lutter pour pouvoir entrer par la bonne porte. Car cette porte ne vacille pas sur ses gonds. Elle ne laisse pas entrer les caractères douteux. Nous devons maintenant tendre de tous nos efforts vers la vie éternelle, avec une intensité proportionnée à sa valeur. Ce ne sont ni l'argent, ni les propriétés, ni la position sociale qui ouvrent les portes du paradis, mais la possession d'un caractère chrétien. Ce n'est pas grâce à un rang élevé ou à des réalisations d'ordre intellectuel que nous obtiendrons la couronne d'immortalité. Ce don ne sera accordé qu'à ceux qui sont doux et humbles de cœur et qui ont placé leur confiance en Dieu. The Southern Watchman, 16 avril 1903. Lorsque vous rentrez d'une tournée missionnaire, ne vous vantez pas de vos succès, mais exaltez Jésus, élevez la croix du calvaire. L'humilité précède la gloire. Pour occuper une place élevée aux yeux des hommes, le ciel choisit l'ouvrier qui, comme Jean-Baptiste, prend une place humble devant Dieu. Le disciple qui ressemble davantage à un enfant est l'ouvrier le mieux qualifié pour l'œuvre de Dieu. Les intelligences célestes sont prêtes à coopérer avec celui qui cherche à sauver les âmes et non à s'élever au-dessus des autres. Tempérance. Chaque enfant de Dieu devrait être conscient de la nécessité d'être tempérant dans son régime alimentaire, sa façon de se vêtir et son travail, afin de pouvoir accomplir le maximum pour la cause de Dieu. Lorsque l'ouvrier a subi les pressions du travail et du souci, et qu'il est surmené physiquement et mentalement, il doit se mettre à l'écart et se reposer, non avec l'intention de satisfaire son égoïsme personnel, mais pour se préparer aux tâches futures. Nous avons un adversaire vigilant, qui nous harcèle constamment pour profiter de la moindre faiblesse qui lui permettra de rendre ses tentations plus efficaces pour le mal. Lorsque l'esprit est surexcité et le corps affaibli, l'ennemi en profite pour multiplier ses tentations les plus perfides, pour faire succomber l'enfant de Dieu. L'ouvrier du Seigneur doit soigneusement ménager ses forces et, lorsqu'il est affaibli par le travail qui lui incombe, se reposer tout en communiant avec Jésus. L'abus des forces physiques abrège la vie qui eût pu être employée à glorifier Dieu. De plus, il nous prive du privilège d'être ses agents qualifiés car, par nos habitudes perverses, telles que des veillées trop prolongées, la satisfaction de l'appétit, nous préparons le terrain à une plus grande déficience. La négligence de l'exercice physique, le surmenage mental ou physique déséquilibre le système nerveux. Agir ainsi, c'est se rendre coupable d'un vol au préjudice du Seigneur, et causer du tort à ses semblables. Nous perdons alors l'occasion de faire du bien à d'autres, ce à quoi Dieu nous appelle dans ce monde. Nous nous rendons incapables de faire ce que nous aurions pu réaliser en un temps plus court. Dieu nous tient pour coupables quand, par de mauvaises habitudes, nous privons le monde du bien que nous aurions pu faire. Dans ses exigences, notre Dieu est toujours miséricordieux, plein de compassion et raisonnable. Il ne nous demande pas de nous engager dans une carrière qui risquerait de nous faire perdre la santé ou d'affaiblir nos facultés mentales. Il ne veut pas que nous travaillions sous une pression et une tension telles qu'il en résulte un épuisement et un abattement nerveux. Le Seigneur nous a dotés de la faculté de raisonner, il désire que nous nous en servions, et que nous agissions en harmonie avec les lois de la vie implantées en nous, car cette soumission nous procurera les équilibres nécessaires. Les jours se suivent, chacun d'eux comportant ses responsabilités et ses devoirs, et il ne faut pas que la tâche de demain soit incluse dans celle d'aujourd'hui. Les ouvriers dans la cause de Dieu doivent être conscients de son caractère sacré, et ils doivent se préparer à l'œuvre du lendemain par une judicieuse utilisation, le jour même, de leurs facultés. Repos et réflexion. Les disciples de Jésus devaient être instruits quant à la manière de travailler et de se reposer. Aujourd'hui, il est également nécessaire que les ouvriers choisis par Dieu obéissent à l'ordre du Christ leur demandant d'aller à l'écart pour prendre du repos. Bien des existences de valeur ont été inutilement sacrifiées pour avoir ignoré cet ordre. Bien que la moisson soit grande et les ouvriers peu nombreux, on ne gagne rien en sacrifiant sa santé et sa vie. Beaucoup d'ouvriers affaiblis et usés sont profondément attristés en voyant tout ce qui devrait être accompli et combien peu ils sont capables de faire eux-mêmes. Ils aspirent de tout leur cœur à recouvrer des forces physiques pour pouvoir faire davantage. C'est à eux, précisément, que Jésus dit « Venez à l'écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu ». La vie du chrétien n'est pas faite d'incessantes activités ou de continuelles méditations. Les chrétiens doivent travailler avec ardeur au salut de ceux qui sont perdus, et ils doivent aussi consacrer du temps à la contemplation, à la prière et à l'étude de la parole de Dieu. Il n'est pas bon de se trouver constamment sous la pression du travail et de l'agitation, car, de ce fait, la piété personnelle est négligée et les facultés mentales et physiques sont lésées. Tous ceux qui se mettent à l'école de Dieu ont besoin de temps pour communier avec eux-mêmes, avec la nature et avec Dieu. Ils doivent en recevoir la révélation d'une vie qui ne s'harmonise pas avec les coutumes et les pratiques du monde. Ils ont besoin d'acquérir une expérience personnelle pour la connaissance de la volonté de Dieu. Individuellement, nous devons l'entendre parler au cœur. Quand toutes les autres voix se sont tues et que, dans la sérénité, nous nous tenons devant lui, le silence même de l'âme rend plus distincte la voix de Dieu. Il nous dit, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Une telle préparation est efficace pour tout travail au service de Dieu. Au milieu de la foule haletante et des intenses activités de l'existence, celui qui se trouve ainsi ranimé est entouré d'une atmosphère de lumière et de paix. Il est renouvelé dans ses forces physiques et mentales. Sa vie répand un parfum par la révélation de la puissance divine qui touchera le cœur des hommes.